C'était il y a 2 ans, avril 2019, après la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de supprimer l'ENA.
Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser l'ENA, j'ai fait cette école, je lui dois beaucoup. Et elle a un avantage, c'est qu'elle a quand même mis fin à ce qui précédait, c'était parfois les avantages, le copinage, le concours de bonne manière ou des choses qui étaient beaucoup plus approximatives. Donc il ne s'agit pas de dire que l'ENA est mauvaise en soi, au contraire. Il s'agit de dire simplement, si on veut une réforme ambitieuse, voilà, il faut rebâtir.
2 ans ont passé, le chef de l'État avait, semble-t-il, renoncé à supprimer l'ENA. Et puis jeudi soir, devant des hauts cadres de l'administration française, 600 cadres, sans aucun journaliste, patatras, il annonce que l'ENA va disparaître pour être remplacée par l'ISP, l'Institut du Service Public. Pourquoi maintenant ? C'est un coup politique, Charles Villeneuve ?
Plutôt qu'un coup politique, moi je ne vois guère le bénéfice, mais on va sans doute me l'expliquer, à commencer par le président de la République par la suite. Mais je trouve que c'est un sacrifice en quelque sorte, j'ai pas lu l'Ancien Testament, mais expiatoire. Après 3 cafouillages politiques, les gilets jaunes, la lutte anti-Covid et tous les ratés de l'administration, ne serait-ce que dans la campagne ou l'accélération de la campagne de vaccination, qui a l'air de prendre son élan, il fallait un coupable dont la dimension symbolique et politique était forte. Et l'ENA a une dimension politique et symbolique très forte. Elle est assimilée à une élite arrogante, dont fait partie d'ailleurs le président de la République, qui détient l'essentiel des leviers du pouvoir. Et l'ENA, c'est l'école du pouvoir, à gauche et à droite, et qui jouit d'un grand prestige. Maintenant, le bénéfice politique, je l'ai dit au début, reste à démontrer parce que la ficelle me semble grosse et parce que ce n'est pas le sujet sur lequel le président de la République est attendu actuellement.
Un peu trop grosse cette ficelle, Gérard Carrérou.
Écoutez, il y a la ficelle politique et puis il y a la réalité. Là, je voudrais dire un mot de la réalité. Moi, je suis de ceux qui étaient favorables à l'ENA. L'ENA, vous vous rappelez quand même, créée par Michel Debré sous le général de Gaulle, pour administrer un pays exsangue, sortant de la guerre, etc.
En 1945.
Et voilà, dégager donc, effectivement, une forme d'élite, mais une élite républicaine qui passait les concours et qui... Bon, alors ça, c'était l'origine. Et comme tout, que toutes les institutions humaines, ça vieillit et ça peut être éventuellement nécessaire de modifier. Donc je pense qu'il fallait, à un moment donné, il faut, et d'ailleurs, je rappelle aussi ça, c'est quand même Jean-Pierre Chevènement, ministre d'État de Mitterrand, avant même d'être au gouvernement en 81, qui avait écrit l'énarchie pour dénoncer un certain nombre de scléroses de l'ENA.
L'énarchie donc, ou les mandarins de la société bourgeoise
donc,
en 67.
Donc, absolument. J'en ai parlé avec lui à cette époque, ce qui prouve que ça montre que c'est une vieille chose. Donc qu'il faille réformer, moi je pense qu'il faut adapter, réformer. Alors est-ce que c'était... Ça c'est donc le premier point, on peut en discuter dans les détails. Mais fallait-il le faire maintenant ? J'avoue que je suis un peu sur la ligne de ce que vient de dire Charles Villeneuve, c'est-à-dire que ça ressemble quand même un peu, de le faire à juste un an de l'élection présidentielle, ça ressemble un peu à un coup pour dire « attention, coucou, après tout ce qui s'est passé, la réforme c'est toujours là, je suis le grand réformateur, moi, Monsieur Macron, je suis capable de faire encore une grande réforme ». Il y a un côté un petit peu, je dirais, d'opportunité électorale qui me chagrine.
Oui. Opportunité électorale, Michel Cotta, ou c'est une façon aussi de se dénoyer de la mauvaise gestion de la crise du
comme
Covid ?
Comme le fait Gérard, je crois qu'il faut distinguer le fond et la forme. Sur le fond, on sentait bien les uns et les autres que cette prééminence de l'ENA, cette non-diversité de l'ENA, c'est les études même de l'ENA, qui sont quand même sur lesquelles, vous savez, il y a... un blackout complet, on ne sait pas ce qu'ils apprennent, ils lisent les manuels, etc. Mais c'est vrai que l'ENA, au bout d'un certain temps, il a beaucoup servi après la guerre. On a l'impression que c'est un groupe quand même usé, qui se répartit les pouvoirs et qui ne correspond pas à l'état à la spectrographie de la France. Donc, moi, je comprends très bien qu'on veuille changer l'ENA en faisant un peu moins le lieu de l'élite, puisqu'on est dans un monde où l'élite et le peuple, soi-disant, s'affrontent. Donc qu'il faille changer, c'est vrai. Est-ce qu'il faut changer maintenant ? On ne peut pas l'accuser, en tout cas, de faire ça au dernier moment. Hein. Ça fait 2 ans qu'il a donné cette cette réflexion à Frédéric Thiriez, qui avait été beaucoup plus loin d'ailleurs dans...
L'essentiel, on y reviendra, sur le fond de la réforme, il y a beaucoup de choses recommandées par Frédéric Thiriez qui a été retenu, notamment les grands corps.
Simplement, on va revenir sur le fond.
Simplement, juste un mot sur la fabrication des élites. On dit que tous les énarques se ressemblent et qu'il n'y a pas de diversité. Mais il faudra un jour mettre en cause pourquoi il n'y a pas de diversité quand ils ont 18 ans. C'est qu'il n'y a pas non plus de diversité à l'école et que l'école ne reconnaît plus ceux qui sont les meilleurs. Et au contraire, il y a une telle volonté égalitariste dans les collèges, dans les lycées, qu'évidemment s'en sortent uniquement les fils de famille aisés et les fils de famille cultivés.
Alors Charles Villeneuve le soulignait, Emmanuel Macron sort de l'ENA, comme plusieurs de ses prédécesseurs, Jacques Chirac, François Hollande et bien d'autres, 9 premiers ministres, je crois, sur 23. Et pourtant, Catherine Ney, j'aimerais vous faire réagir à ce que disait Emmanuel Macron en 2017, à Clermont-Ferrand, quand il était interpellé par un passant.
J'ai la tête d'un moule. L'ENA, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà. Avant que ce soit l'ENA, c'était quoi? C'était le recrutement par copinage. Moi, je préfère les concours de la République.
Il préfère les concours de la République, disait-il.
Oui, mais je crois
Emmanuel
que cette
Macron
interpellation et les Gilets jaunes ont été. Qui ne demandaient pas la fin de l'ENA. Hein. C'était pas ça. Mais je crois qu'un soir, il était à l'Élysée avec Jean Viard, le sociologue, qui l'avait beaucoup aidé à réfléchir pour sa campagne. Il se disait, mais pourquoi les Gilets jaunes ont failli venir à l'Élysée? Ils étaient aux portes de l'Élysée, puis ils ont cassé l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qui se passe? Alors on dit, mais parce que ça ne circule pas, la base ne se fait plus. Et puis Jean Viard a eu cette phrase, mais tu sais, il vaut mieux décapiter l'ENA plutôt que le roi soit décapité. Et là, ça fait tilt dans la tête d'Emmanuel Macron.
Tout serait
et quatre jours
là.
Après, ben oui, Jean Viard me l'a raconté, et qui après dit, ben voilà, on va toucher l'ENA. On va, vous voyez. Mais l'ENA, qu'est-ce que c'est? L'ENA, fondée en 1975, ce qui veut dire qu'il y a eu, fondue en 1945, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 1945. Il y a eu 75 promotions, avec en moyenne entre 80, selon les... Ouais, bon, ça veut dire qu'il y a en tout 7000 anciens énarques, dont la moitié ont disparu. Voyez. Et donc, imaginez que s'il en reste 3000, c'est depuis autant d'années, ce sont eux qui ont inoculé un virus et que, sans variant, et que ce sont toujours les mêmes. Alors, c'est vrai qu'il y a s'ils se recrutent plus dans les fils de famille et quelquefois d'anciens énarques et que c'est un milieu où il y a un certain enfermement. Mais il y a aussi un tour extérieur où arrivent des universitaires, des policiers, des profs, voilà. Et donc, il y a quand même plus de diversité qu'on ne le croit.
Alors, c'est pas ça le principal reproche qui est fait à l'ENA depuis des dizaines d'années par beaucoup de gens. C'est en fait que ce soit l'école, la première marche de l'escalier qui vous conduit dans la politique. C'est-à-dire, on voit bien les itinéraires, ils sont tous les mêmes. Les jeunes gens brillants d'une génération, au moment de la présidentielle, ils vont voir qui l'entourage de Giscard à une époque, qui l'entourage de Mitterrand à une autre époque. Ils se font, ils sont des jeunes
énarques. Parfois les mêmes d'ailleurs, ils vont voir les deux.
Parfois les mêmes qui hésitent entre les deux. Et puis, ils font du cabinet ministériel pendant quelques années auprès d'un ministre important. La troisième année, ils continuent à percevoir, je le rappelle quand même, qu'ils continuent à percevoir leur salaire de fonctionnaire, de futur fonctionnaire. Et effectivement, ils font de la politique, ils se font élire. Et puis, alors les gens, ils voient chaque gouvernement de plus en plus d'énarques. Et quand ils sont battus, ils reprennent leur place et leur ancienneté a continué
alors,
à courir.
Ça
choque les gens.
Le manque de diversité, ce qu'on reproche à l'ENA, je vais vous laisser plus de temps après la pause, Charles Villeneuve, pour en parler. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
10h20 sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce débat des grandes voix, première partie consacrée à la suppression de l'ENA, coup politique ou réforme en profondeur. Ce qu'on reproche, on le disait à l'ENA notamment, c'est ce côté élite française, cet entre-soi, tous sortis du même moule, pas du tout représentatif de la société française. D'ailleurs, moins d'1% sur la dernière promotion étaient fils d'ouvriers.
Oui, mais regarde. Regardez, en Angleterre, ils sortent tous d'Oxford, c'est le
et
même
de Cambridge.
Moule aussi. À Cambridge, donc, ouais, et
les universités.
Voilà. Oui, d'accord, mais ils sortent tous du même moule aussi, donc il oui.
Y a plusieurs universités, pardon.
Oui, non, mais, pas enfin, du même non mais écoutez, en Amérique, l'université Harvard produit quelque chose qui s'appelle la Kennedy School of Government, c'est l'ENA américaine,
c'est ça.
Et on va à Harvard, donc c'est le même système, forcément un pays secret. Dans ses meilleures enceintes, université scolaire d'abord, universitaire ensuite, les meilleures. Donc c'est pas ça qui est à mon avis la critique de l'ENA n'est pas. C'est pas ça qu'il faut dire. Parce ce sont souvent des gens de grande qualité.
Absolument.
C'est pas la question.
Parce que c'est une école d'excellence. Tout à l'heure, tu parlais, Gérard, de Jean-Pierre Chevènement, qui a écrit ce livre. Et bien d'autres qui ont essayé, justement, de réformer l'ENA. Mais ils se sont aperçus que c'était l'école d'excellence. Et que nous avons besoin, finalement, dans tous les secteurs de la République, des gens qui ont fait, justement, cette haute école d'administration que De Gaulle a voulu, parce que, comme il disait, un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. Bon, ça fonctionne un peu moins qu'avant. Mais il n'empêche que dans les grands corps, il faut reconnaître, le président de la République, il sort d'où ?
De l'ENA,
il a choisi quoi ? Parce qu'il était dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers. L'inspection des finances. Le Premier ministre Édouard Philippe, il sort d'où ? D'un autre grand corps de l'État, le Conseil d'État. Parce qu'il était dans la botte et qu'il a choisi le Conseil d'État. Idem pour Castex, il sort d'où ?
François Hollande,
Il sort de la Cour des comptes. Ouais. Troisième grand corps de l'État. Alors, est-ce que cette réforme est susceptible de combler le fossé des inégalités ? C'est-à-dire d'augmenter le nombre d'élèves issus de familles défavorisées qui entrent à l'ENA. Moi, je dis, c'est peu probable. Parce que, tout à l'heure, Michel l'a dit, le vrai problème, c'est bien en amont, c'est au niveau des lycées et des collèges. Regardez, aujourd'hui, en 1950, il y avait 29% de gens d'élèves d'origine modeste. Aujourd'hui, il y en a 9. 9%.
Ça a baissé à tous les niveaux, c'est ce que vous voulez dire.
Le fossé des inégalités sociales commence dans les écoles. La proportion d'enfants issus de familles qui ont des moyens est deux fois plus important dans le privé que dans le public. Et c'est là que le fossé commence
à se creuser. Bien sûr, parce que la sélection.
Puis Catherine Ney.
Bien sûr, parce que la sélection ne se fait pas à l'école. Elle ne se fait plus à l'école. Elle reste, au fond, l'apanage des personnes qui peuvent donner à leurs enfants une éducation supplémentaire à celles qu'ils reçoivent à l'école. Alors, enfin, sans revenir à la Troisième République. À la Troisième République, il y avait tout le temps des inspecteurs qui allaient visiter dans les écoles les plus représentatifs, les plus intelligents, et qui disaient, par exemple, à Édouard Herriot, montez à Paris et faites normal. Bon. Ça n'existe plus et c'est même le contraire qui existe, puisqu'il n'y a pas de volonté de classer les gens. Il y a au contraire attention aux plus faibles. Il faut faire attention aux plus faibles. C'est à eux que doit se réserver notre vigilance. Alors évidemment, ce qui se passe à l'ENA, ça se passe dans toutes les grandes écoles. Il y a très très peu. Regardez le nombre de fils d'ouvriers à Polytechnique. Hein. Il y en a aussi très peu.
Alors Polytechnique, École normale supérieure,
donc
HEC,
la volonté quand même. Il y a sûrement quelque chose à faire pour redonner.
Mais ça a déjà été fait, Michel Cottet. Oui. Pour éviter des profils identiques, il y avait déjà ce qu'on appelle les classes préparatoires.
Oui, oui.
Égalité des chances à Paris depuis 10 ans.
Oui, on l'a vu, mais justement, elles sont très difficiles et on s'aperçoit simplement que ça débute au lycée. Mmh. Et ça doit débuter au lycée. Et
mais le système
même,
actuel,
ça doit débuter plus tôt. Et moi, je trouve qu'une des plus grandes réformes, peut-être, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir fait le dédoublement des classes pour les tout-petits, pour qu'ils apprennent à lire et à écrire, et qu'ils ne soient plus ces enfants qui arrivent dans les premières classes en ne sachant ni lire ni écrire.
Oui, c'était l'idée de Blanquer. C'est l'idée de Blanquer.
Oui, c'est l'idée de Blanquer. Parce qu'après, ils arrivent non préparés et aujourd'hui ça se poursuit jusqu'au bac où il faut bien dire qu'aujourd'hui le bac il est quand même donné et que c'est pas du tout le même niveau qu'il y a plusieurs années.
Alors sur le fond, Gérard,
sur le fond dans les réformes, je pense d'ailleurs il y a pas, c'est pour ça que j'ai pas eu une critique absolument décisive au début, parce que je pense qu'il peut y avoir des choses très positives dans la réforme. Par exemple les grands corps. J'ai relu attentivement ce que dit Amélie de Montchanin, qui est la secrétaire d'État au ministre, je me souviens plus, à la fonction publique.
Dont va dépendre la réforme.
Dont va dépendre cette réforme. Elle dit notamment qu'elle souligne une chose qui est réelle, c'est que les grands corps, ce qu'on appelle grands corps, la botte avec un B majuscule,
ce sont les meilleurs,
peuvent choisir à la sortie du concours de l'ENA, ils choisissent leur corps. Et ils vont où ? Ils vont au Conseil d'État, à la Cour des comptes ou à l'inspection des finances. Et si vous balayez les leaders politiques des principaux gouvernements depuis 30 ans...
Ils sont tous passés par là.
Ils sont passés, pas tous, mais beaucoup sont passés par là. Donc là, il faut redonner de la fluidité. Par exemple, dire qu'il n'y aura plus que des administrateurs qui sortiront, disons, égaux de l'ENA, et qu'on oblige éventuellement à faire des années de travail sur le terrain, dans les ministères, par exemple. Qui veut aller à la santé, dont on parle beaucoup actuellement ? Quand on est énarque, on ne rêve pas d'aller à la santé. Pourtant, il faut aller
Martin
administrer.
Martin Hirsch...
Non, mais il faudrait que les meilleurs qui sortent de l'ENA aillent dans ces ministères-là, au logement, à la santé, aux affaires sociales, etc. Or, ils n'y vont pas.
Qu'est-ce qui va changer avec ISP, Charles? Qu'est-ce qui va changer avec l'ISP?
Parce que d'aborder.
Le concours d'entrée sera toujours là, le classement à la sortie également, ça sera toujours
là,
à Strasbourg.
Le classement de sortie est là, mais ce qui disparaît, c'est que les meilleurs... si tu veux, par rapport au classement de sortie, n'auront pas automatiquement leur ticket d'entrée à l'inspection des finances, au Conseil d'État ou à la Cour des comptes.
Absolument.
Ils devront faire ce qu'on appelle, parce que tous formeront les administrateurs de l'État. C'est ce que tu viens,
c'est ce que tu viens de
préciser. Oui. Et après 5 ou 6 ans d'expérience sur le terrain, à ce moment-là, ils rejoindront les grands corps. C'est-à-dire qu'en réalité, on va leur donner une pratique dans les territoires de l'administration du pays.
Parce que jusqu'à présent, je vous rappelle le stage de l'ENA. Les énarques faisaient un stage de quelques mois dans une sous-préfecture.
C'est ça.
Franchement, on n'est pas sûr de son efficacité. En attendant, ils n'apprenaient pas grand-chose là et ils n'avaient pas le temps d'apprendre.
Ce n'était pas suffisant. Nous avons reçu un certain nombre, d'ailleurs, dont la ministre de la Défense à l'heure actuelle, nous avons d'ailleurs très
parce qu'elle
nous avait paru extrêmement précise. Oui. Et d'ailleurs, elle se débrouille très bien au ministère de la Défense.
Catherine Nedamou,
non, je veux dire que Macron a fait partie de la promotion à l'ENA, de la seule promotion qui avait contesté le classement, parce qu'ils pensaient que c'était des fils d'archevêques qui étaient trop promus et pas eux. Oui. Et donc, ils avaient saisi la justice administrative et le Conseil d'État leur a donné raison. Seulement, comme la justice est lente, elle leur a donné raison 2 ans plus tard, ce qui n'a rien changé. C'est que ceux qui avaient été désignés avaient quand même été,
les grands corps. Il y a une conviction, ça prouve quand même qu'il y a une conviction chez Macron, ce que vient de dire Catherine, et pas seulement un coup politique.
À l'arrivée, comme le dit un ancien énarque également, Michel Sapin, j'entends parler de suppression, je vois plutôt une réforme et c'est plutôt vers cela que l'on tend.
Il a raison.
Merci les grandes voix pour ce premier débat.
Le changement de marque, ça ne sera plus l'ENA, ça sera l'ISP. Et quand on change de marque pour un grand produit, ça veut dire quelque chose.
Et quand on multiplie les gens qui accèdent.
Non, mais il y a un autre volet, de la réforme qui est très important, c'est qu'on va regrouper, si vous voulez, 13
corps en commun.
Oui, 13 corps en commun et qu'on va créer une sorte d'équivalent de l'école de guerre, qui est le circuit des militaires. Des officiers supérieurs, et de la même manière, cette école de guerre va récolter les meilleurs, en réalité, pour les réinjecter dans les grands corps de l'État.
Et si on est là pour ce débat sur l'ENA, je vous arrête là, les grandes voix, et on passe dans un instant à notre deuxième débat du jour, ce qu'on a appelé le Sofagaït.